premier rendez-vous. Pauline Vrolix.
Un après-midi de personnalité, une première rencontre toujours singulière en direct sur La Première. Notre première invitée est une femme vibrante, originaire de Carcassonne. Elle passe son enfance dans le Midi avant de rejoindre Toulouse. À Toulouse, elle se forme à la gestion, effectue un parcours en lettres et débute dans le milieu de l'édition. Un amour du texte, de l'écrit qui ne va plus jamais la quitter. Puis direction Paris, expérience dans le monde de la presse féminine pour le groupe Marie-Claire, puis chez Flammarion. Ensuite, elle s'installe à Fribourg avec son compagnon. Ensemble, ils ont 3 enfants. Aujourd'hui, ce sont de jeunes adultes. Co-présidente du mouvement ATD Carmonde pour la Suisse, elle s'active depuis plus de 16 ans maintenant pour cette structure dont l'acronyme veut dire « Agir tous pour la dignité ». Recueilleuse de récits de vie est une autre de facette de sa personnalité pétaradante. Elle collecte aussi des mémoires d'individus qui veulent laisser une trace et elle anime aussi plusieurs ateliers d'écriture itinérants. Vorace de culture, amoureuse des rencontres, elle est une artisane du lien et de l'écrit. Notre deuxième invitée prépare son premier documentaire intitulé « Dis-moi ton secret » sur le thème des guérisseurs et guérisseuses en Suisse romande. Enfant, cette habitante de Presles sur le plateau de Diesse, dans le canton de Berne, aime se rendre à la cabane de sorcières toute proche de chez elle. À aujourd'hui 30 ans, sa fascination s'est élargie à tous ses soignants et soignantes de la marge, sur lesquels tout le monde a un avis, mais que personne ne connaît vraiment. Issue d'une famille qu'elle nomme « Tribu », elle a 3 sœurs, cette cavalière émérite et fan de moto travaille aussi comme journaliste reporter d'images pour la chaîne télébilingue à Bienne. Là-bas, elle apprend son métier avant de travailler comme animatrice du côté de la radio RJB. Expatriée à Paris pendant 18 mois pour une école de documentaire à la fin de sa vingtaine, c'est là qu'elle décide de réaliser son premier film sur les rebouteux, magnétiseurs et autres faiseuses et faiseurs de secrets. La voilà en chemin, aidée de la fondation Engelbertz pour les sous, pour ce premier long métrage prévu pour une sortie en salle horizon 2021. Voilà, notre première invitée est Hélène Cassignol, notre deuxième invitée est Leïla Thévaud. Bienvenue dans Premier Rendez-vous.
De 14h à 15h, Premier Rendez-vous.
Bonjour Hélène Cassignol.
Bonjour Pauline.
Bienvenue à vous.
Merci beaucoup.
Ça vous va bien, pétaradante.
Mais parfait.
Avec votre joli accent du Sud.
Non. Puis je retrouvais en plus l'accent rocailleux. Alors moi, je l'ai moins, mais j'avais un oncle qui avait un accent très, très rocailleux. Et du coup, vous me permettez de penser à lui grâce à ce mot.
Exprimez-vous. Bienvenue à vous, Leïla Thévaud.
Bonjour. L'accent du plateau de Diesse, il est peut-être un petit peu moins joli, mais...
Non, il est tellement, il est de chez nous.
Voilà. Réaction de la région.
Bon, merci. Leïla Thévaud, vous avez la parole, vous la gardez. Un premier rendez-vous qui vous a beaucoup marqué.
Alors, moi j'ai envie de vous parler d'une rencontre que j'ai vécue il y a une dizaine d'années maintenant. J'avais choisi d'entreprendre un voyage humanitaire au Togo, à Lomé. Et je me suis retrouvée dans un centre d'orphelinat. Il s'appelait le centre d'orphelinat de la Renaissance. Et là-bas, j'ai été accueillie par 30, 40 enfants. Je me souviens de mon arrivée, plein d'enfants partout. Et parmi ces enfants, je ne sais pas pourquoi, mais... j'ai accroché tout de suite avec une petite fille de 10 ans, Bella. Et c'est un échange d'ailleurs qui s'est passé de mots parce qu'elle parlait principalement évé, que très peu le français, c'est le dialecte local. Mais il n'y avait pas besoin de mots au final, on s'est compris avec un regard. Et ensuite on a développé durant les 3 mois que j'ai passé là-bas une superbe relation. On a fait plein d'activités ensemble. Et en fait je pense que j'ai choisi ce premier rendez-vous parce que c'était une rencontre avec Bella, mais aussi avec une culture, une langue, d'autres saveurs, d'autres croyances. Et que ça me représente peut-être bien parce que j'aime bien voyager, découvrir.
En fait, c'est une curiosité voilà, qui s'accroche au premier regard, à quelqu'un qui vous ouvre son cœur, mais avec les yeux, c'est ça?
Un petit peu, oui, c'est ça. Un petit peu comme aujourd'hui, quand on s'est observé avec Hélène à travers la vitre, sans pouvoir se parler d'ailleurs. Mais... c'est ça, exactement. Et parfois, il n'y a pas besoin de mots, au fait.
Bon, on va voir si vous avez besoin de mots ou pas.
Mais à la radio, c'est mieux, peut-être.
On compte sur vous. Moi, si jamais je saurais, un peu vous faire des guilis comme ça pour que vous osiez vous exprimer. Merci pour cette première rencontre avec Bella, donc une petite fille togolaise.
Exactement.
Et puis, c'était à quel horizon, ça, juste dans votre parcours, vous qui avez 30 ans aujourd'hui?
Alors, j'avais 20 ans. C'était il y a pile 10 ans.
Pile 10 ans. Un chapitre qu'on explorera peut-être, qui sait, tout au long de cette émission.
Avec plaisir.
Je me tourne vers vous, Hélène Cassignol, un premier rendez-vous pour vous.
Alors, moi, j'ai choisi de vous parler d'un premier rendez-vous manqué ou différé. Et puis, pas forcément. Alors, du coup, ça tombe finalement très, très bien. C'est rigolo, ces correspondances. Pas forcément avec une personne, mais plutôt avec un cinéaste et son univers. En fait, à l'époque, j'avais 8-9 ans et j'étais donc à l'école primaire et on venait d'avoir certainement un long week-end de vacances. Enfin, donc je me revois, je descends l'escalier et je rencontre mon amie d'enfance, Dominique, et elle était surexcité. Elle commence à me parler d'un film fantastique qu'elle a vu 2 jours plus tôt. Et puis bon, on avance comme ça, on arrive dans la cour et puis toutes nos copines bruissaient de ce film fabuleux. Et puis moi, j'étais là, j'avais vraiment la sensation d'avoir loupé quelque chose. Alors ce film, c'était l'histoire de deux sœurs très belles qui dansaient, qui chantaient et qui faisaient des rencontres extraordinaires. Et moi, rien que de les entendre me parler de ce film et d'entendre l'énergie dans leur voix et puis de les entendre commencer à fredonner les premières paroles des chansons, j'y étais déjà. Alors, je sais pas si vous, ça vous dit quelque chose, parce que ça, c'est vraiment un film de ma génération. En fait, il s'agit des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy,
sœur jumelle.
Jacques Demy et la musique de Michel Legrand. Et c'est vrai que ce film, en fait, est un film qui m'a accompagnée tout au long de ma vie, comme d'ailleurs l'univers de Jacques Demy. Et si j'analyse a posteriori, je pense vraiment aussi que c'était parce que c'est un film sur la rencontre, et c'est un film aussi sur la rencontre qui n'a pas lieu devant les yeux des téléspectateurs, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une des sœurs va rencontrer un marin peintre, mais elle va pas les rencontrer devant nous, en fait. Cette rencontre, tout le monde l'attend, mais elle aura lieu hors champ. Et du coup, c'est aussi la rencontre et tout le désir qu'il y a derrière la rencontre. Et je pense que c'est un film qui m'a mis en route. Moi, qui étais en plus à cet âge-là excessivement timide.
C'est vrai,
et qui était très, très
empêchée. On a de la peine à le croire, Hélène Cassignol.
Pourtant.
Excessivement timide.
Ouais.
Mais
ouais.
Racontez-nous alors, pourquoi?
Parce que j'étais empêchée, en fait, empêchée de m'exprimer. Mais c'était moi-même qui m'empêchait de m'exprimer. J'avais, je pense, une à la fois très très envie des autres et à la fois une peur de les affronter. Alors j'ai toujours beaucoup de chance dans ma vie. J'ai toujours rencontré des amis, dont Dominique, dont je parle, qui étaient eux très lancés et du coup qui étaient un peu mes ponts vers l'extérieur.
Oui.
Et d'ailleurs mon mari est un peu de cette trempe là aussi, lancé. Et puis moi, voilà, ma timidité, j'ai fini par réussir à la combattre, parce que sinon on vit pas, en fait. Mais c'est vrai que j'en garde quand même encore des souffrances anciennes. Et puis peut-être cette façon un peu, quand on parle, de se jeter à l'eau, d'aller vite.
C'est un peu comme, voilà, pour contrer la peur, la trouille, en fait, on se jette comme ça, ouais. comme un plongeon dans
exactement,
l'eau, c'est ça.
C'est
et
ça
fait un peu de bruit, ça rigole, on en fait trop, ça déborde.
Voilà, c'est exactement ça.
Mais ça fait du plaisir aussi, non?
Mais ça fait du plaisir
parce
aussi.
Qu'on est tout de suite, disons, dans le domaine de l'authenticité, on se rend vulnérable aussi en se montrant tel qu'on est comme ça, tel départ, non?
Oui, mais ça, je pense qu'il faut l'assumer. Enfin, en tout cas, moi, je pense que justement, cette timidité, elle est quelque part, elle est aussi, enfin, partie où elle s'est estompée quand j'ai compris que quelque part, ben voilà, on était ce qu'on était justement aussi grâce à nos fragilités. Et puis finalement, qu'importe, on en a
ça,
tous.
Ça, c'est l'art du récit de vie, non?
Et ça, c'est aussi l'art du récit de vie.
Et que vous connaissez particulièrement
et
bien.
Et ça, c'est aussi l'art du récit de vie.
On y reviendra. Ouais. Merci Hélène Cassignol pour ce premier rendez-vous, donc avec les Demoiselles de Rochefort, si je comprends bien.
Voilà.
Ou le cinéaste, ou le film, ou disons la rencontre, ou la réjouissance.
Voilà,
c'est tout
le
ça,
bonheur,
en fait.
Le bonheur.
Bon, on va passer à un moment de cette émission où il s'agit de vous rencontrer, de vous poser des questions toutes les deux. Donc, je vais me retirer du micro. Hélène Cassignol, vous commencez par poser 2 minutes de questions à Leïla Thévo. C'est parti, c'est à vous.
Alors, du coup, alors moi, je vais rebondir aussi un peu de la manière dont je procède. Alors, vous m'avez parlé de Togo. Moi, je me suis revue des années plus tôt, aussi pareil, à la vingtaine, en Côte d'Ivoire. Et avec ses enfants, effectivement, ses enfants qui sont assez extraordinaires. Et puis ce que vous avez dit, vous avez parlé du silence. Et moi, je voudrais vous interroger justement sur ce silence. Parce que moi, pendant très longtemps, et même encore parfois maintenant, j'ai des problèmes avec ce silence. Et vous, qu'est-ce qu'il vous dit, ce silence? Qu'est-ce qu'il vous apporte?
C'est une question compliquée. Mais je suis pas quelqu'un de très très silencieuse au quotidien. Là, je le suis parce que c'est intimidant d'être face à quelqu'un qu'on connaît pas, en train de faire une émission radio. Mais c'est vrai que normalement, je suis pas très silencieuse. Je parle beaucoup. J'aime être entourée de plein de monde et parler. Mais les moments où je suis silencieuse, je pense que c'est justement quand je suis sur mon cheval, dans la nature. Et là, c'est des moments où j'apprécie le silence. Je pense que c'est là que je l'apprécie le plus. Penser à rien, en fait, se vider la tête.
Mais du coup, quand vous avez rencontré cette petite Bella, là, vous avez dit, voilà, moi, je l'ai... finalement, on pouvait pas s'exprimer, on n'avait pas la même langue. Et donc, comment vous êtes arrivée à... Qu'est-ce qui a fait, d'abord, qu'est-ce qui a fait que c'était vers elle? Et comment vous êtes rentrée en contact?
Je sais pas, en fait. J'arrive pas à l'expliquer pourquoi elle, parce qu'il y avait 30, 40 enfants autour de moi, et il y a quelque chose qui est passé... Une énergie, parfois on dit quand on rencontre quelqu'un qu'il y a le courant qui passe. Mais entre nous, il y a le courant qui est passé. Mais je ne peux pas l'expliquer, en fait. J'arrive pas à poser des mots là-dessus sur cette rencontre, sur ce regard, sur qu'est-ce qui nous a attirés l'une vers l'autre. Mais après, c'est vrai qu'on a échangé autrement aussi, par les gestes, en faisant des activités, en se donnant la main. Elle me donnait beaucoup la main.
Ouais.
Et ça a permis de remplacer aussi...
Un courant qui passe, un regard qui s'échange. Ça, Hélène Cassignol, c'est aussi des choses que vous, forcément, vous pratiquez quand vous faites des récits de vie, non? La première rencontre, le premier moment où on reçoit, la parole de la personne. Comment ça se passe? Vous utilisez aussi vous cette énergie qu'on n'arrive pas à qualifier, mais qui existe, non?
Oui, tout à fait. D'autant que il y a justement une première rencontre aussi qui est là pour être sûr qu'on a envie de se rencontrer. C'est-à-dire, on démarre pas d'emblée sur le fait de raconter ses souvenirs, parce que justement il faut aussi, et puis Leïla elle a pas employé ce terme-là, mais dans cette énergie il y a aussi, moi j'entends aussi une espèce de confiance spontanée qui s'instaure, et du coup dans le récit de vie ça c'est très important, la confiance. Donc il y a toujours un rendez-vous à blanc quelque part qui est là pour qu'on apprenne à pas se connaître parce que c'est trop tôt, mais quelque part à s'apprécier et à voir justement si on a envie, et l'un et l'autre, de travailler ensemble. Et c'est ça aussi qui va ancrer, je pense, l'authenticité des propos qui vont être échangés. Parce que d'emblée, on part aussi d'égal à égal, hein, en fait. Et c'est ça qui va faire que le fil du récit va pouvoir se dévider. Aussi, justement, grâce à cette première rencontre, où parfois aussi, on s'autorise le silence. Alors qu'après, dans les rencontres suivantes, on est là, justement, pour discuter, puis les rencontres sont enregistrées, donc c'est un peu différent. Il y a un autre rythme.
Et ce silence-là, Hélène Cassignol, c'était votre question pour Leïla Thévault, qui a appris l'entier de ce petit moment de questions. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à vous poser des questions tout au long de l'émission, hein, c'est bien le but. Exprimez votre curiosité. Hélène Cassignol, ce silence-là, est-ce que vous le respectez? Vous osez l'introduire, ces temps de silence, dans ces rencontres avec des personnes peut-être dont vous faites le récit de vie?
Alors justement, c'est vraiment ce temps de silence, pour moi, c'est quelque chose que je dois toujours et encore travailler, parce qu'en fait pendant très longtemps, moi, ce silence, j'ai eu tendance à le meubler, justement, peut-être par une espèce d'angoisse. Et aujourd'hui, j'apprends petit à petit à l'apprivoiser, parce que ce silence, justement, il est parfois, pour certains, très important, parce que tout le monde n'a pas le même débit. C'est vrai que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui parle assez vite, parfois d'ailleurs trop vite. Et certaines personnes ont besoin de réfléchir à un autre rythme. Et ces silences font aussi office de respiration. Et puis respirer, quelque part, quand on raconte sa vie et quand on raconte aussi parfois des moments intenses, c'est très important. Mais c'est vrai que quand je réécoute, parce que ça aussi, c'est aussi intéressant, puisqu'on travaille en fait en enregistrant, et quand on réécoute, souvent je me dis, oh là là, là t'as parlé trop tôt, t'as posé ta question trop tôt. Donc moi, j'ai encore du boulot au niveau des silences.
Hélène Cassignol, on va voir ça, comment ça se développe dans ce rendez-vous entre vous deux, entre vous et Leïla Thévaud. On va inverser l'exercice, hein, si vous le voulez bien. Leïla Thévaud, c'est votre tour de découvrir un peu plus Hélène Cassignol. C'est parti.
Avec plaisir. Moi, je me demande comment est-ce que vous faites pour recueillir ces récits de vie. Vous avez parlé d'un enregistreur, mais comment est-ce qu'on met tous ces souvenirs dans un ordre pour donner un sens, pour créer un récit? Parce qu'il y a tellement de souvenirs dans une vie. Et quand on est face à des personnes qui ont vécu beaucoup, beaucoup de choses, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on procède?
Alors, en fait, on procède un peu chaque fois différemment. Parce que je pense que l'art aussi du recueil de récits de vie, c'est vraiment de trouver avec l'autre, c'est vraiment d'ailleurs d'être avec l'autre. On est ensemble, on forme une équipe, hein, réellement. Et du coup, c'est ensemble, à deux, de justement arriver à trouver cette petite musique qui est si particulière à chacun d'entre nous. Et du coup, comment on fait? D'abord, on calme vraiment notre interlocuteur en lui disant, bah voilà, vous allez pas du tout nous raconter toute votre vie, c'est impossible. Donc, quelque part, il va y avoir certains éclats uniquement, des éclats de vie. Mais ces éclats-là vont vous dire. Et ces éclats-là vont vous dire aussi avec votre manière de vous exprimer. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis très proche du vocabulaire. Parce qu'on a tous une langue qui nous est propre, avec nos imperfections, avec nos expressions. Et ensuite, finalement, se laisser guider par la personne. Et la forme, on la trouve grâce à la personne. Elle peut être chronologique ou parfois pas du tout. Et du coup ensuite, je pense qu'on est assez proche. Finalement, on est c'est presque après une forme c'est presque de la technique de documentaire, c'est-à-dire on fonctionne par découpage et par collage. On est dans une forme de puzzle en fait.
Le montage.
Ouais, c'est là que, comment dire, vos deux personnalités se rejoignent bien, une par l'écrit, l'autre par l'image. Leïla Thévaud.
Je pense qu'on a la même envie de raconter des histoires, de donner la parole aux gens, parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de belles histoires à raconter autour de nous, je pense.
Ah, mais ça, c'est clair. Et puis, de donner aussi la parole, justement, à des gens qui ne l'ont pas forcément habituellement, parce que peut-être ils ne se la donnent pas aussi, et de leur faire entendre aussi leur propre voix.
Et vous faites entendre des voix, Leïla Thévaud, des voix qu'on a envie d'entendre souvent, mais dont on se méfie aussi, enfin, de par quelques siècles aussi de persécution pour ces sorciers et sorcières qui ont habité nos campagnes. Vous faites un film, Leïla Thévaud, en ce moment, qui s'appelle « Dis-moi ton secret ». Et on va écouter une petite capsule sonore que vous avez préparée pour présenter votre film, là tout de suite sur La Première. On vous écoute.
J'ai grandi ici, dans le Jura bernois, sur le plateau de Diesse, et je m'apprête à réaliser mon premier long-métrage documentaire. J'ai envie de faire un film dans ma région et sur le bien le plus précieux de l'être humain, la santé. Mon désir, c'est de mener une quête sur l'univers des guérisseurs suisses romands et de vous emmener avec moi dans cette quête. Leur pratique reste aujourd'hui fascinante, mystérieuse, un petit peu magique même. D'ailleurs, pour beaucoup, peut-être vous, lorsqu'on en parle, c'est l'enfance remplie de fables et d'histoires fantastiques, grimoires, fantômes, loups-garous, sorcières qui refait surface. C'est ce qui m'a inspiré le sujet et donné envie de tourner un film sur les faiseurs de secrets, les rebouteux, les magnétiseurs. 7 guérisseurs suisses romands sont au cœur de mon film. Je vais les observer en train de pratiquer, mais aussi les écouter dans le but de mieux comprendre. Un autre éclairage sur le sujet sera apporté par Samuel M. Blotton, mon ami d'enfance, et un illustrateur talentueux. Il réalisera des dessins qui nous feront nous questionner sur cet univers des guérisseurs, mais toujours avec le sourire. Si on est ici ce soir, c'est parce que c'est un lieu qui est présent dans mes souvenirs d'enfance. Ici, on est à la cabane de la sorcière. Petit, on est se faire peur dans les environs, à la recherche de cette fameuse sorcière. C'est un lieu qui m'inspire et qui sera présent dans mon film. Et d'ailleurs, je vous propose de me suivre, je vous y emmène.
Alors, Leïla Thévaud, on vient avec vous ?
Ah ben avec plaisir, j'espère.
Comment
c'est
là-bas ?
Beaucoup de personnes m'accompagneront. Alors, ça fait peur.
C'est vrai ?
Non, ça me faisait peur quand j'étais petite. Donc, mais c'est une cabane perdue dans la forêt sur le plateau de Diès. Une vieille maison abandonnée qui est à personne. Et nous, on imaginait toutes sortes d'histoires avec les autres enfants du village aux alentours de cette maison. On racontait qu'une sorcière vivait à l'intérieur, qu'elle capturait les enfants, d'ailleurs aussi. Et c'est vrai qu'on aimait bien se faire peur, au fait, on aime bien se faire peur. Et moi, ça fait écho pour moi, cette cabane de la sorcière à ce monde mystérieux des guérisseurs. Le monde des guérisseurs, c'est aussi mystérieux, magique, fascinant. Et c'est pour ça que je tisse ce lien, et c'est comme ça que j'ai envie d'ouvrir ce film.
Et vous qui avez enquêté comme ça pendant un certain temps, je crois passer une année quand même, vous avez rencontré dans le détail 30 guérisseuses et guérisseurs qui ont divers aptitudes. Qu'est-ce que vous en gardez ? Où est-ce que ça vous emmène ? Est-ce que vous avez toujours aussi peur ?
Non, j'ai plus peur en fait. C'est cette peur d'enfant qui m'a donné envie, adulte, de mener cette quête et de partir à la découverte de cet univers. Et maintenant, je pense au contraire qu'il est important justement de briser tous les clichés qu'on a sur ce monde-là. On a encore très peur de ce monde-là, moi plus, et j'ai envie de montrer aux autres qu'il ne faut pas en avoir peur et qu'il peut nous apporter beaucoup.
Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment ça a tourné en vous et puis que vous avez, je sais pas, justement abandonné la peur et puis appris quelque chose ?
Je sais pas. Il n'y a pas un moment précis. Je pensais au fil des rencontres, petit à petit. Et on sent à quel point, quand on rencontre ces différents guérisseurs, l'énergie est positive. On se sent bien, on se sent à l'aise. Je pense que quand on a quelqu'un qui n'est pas bienveillant en face de nous, on le sent. On sent la négativité. Et là, je me suis toujours sentie, face à ces différents guérisseurs, faiseurs de secrets, rebouteux que j'ai rencontrés, enveloppée par une énergie positive, par quelque chose qui fait du bien.
En fait, le titre de votre film, c'est « Dis-moi ton secret, on sait ». Je n'ai jamais vérifié, mais vous allez nous l'expliquer, que les secrets, ça se dit pas comme ça, ça se choisit. En fait, je crois qu'il y a une transmission qui est très organisée, disons. Il faut vraiment choisir la personne. Est-ce qu'on peut dire à un guérisseur ou une guérisseuse, allez, hop, le secret?
Alors, tout dépend. Parce que justement, là, ils sont pas d'accord les uns avec les autres. Certains ont des secrets, justement, qu'ils ont hérité de leur famille, qui se transmettent de génération en génération et qu'il ne faut surtout pas dire à voix haute, ou qui sont entourés par toutes sortes de règles de transmission. Et au contraire, j'ai aussi rencontré d'autres guérisseurs qui pensent qu'il faut les donner à tout le monde, ces formules. Par exemple, Fabienne et Françoise, qui sont deux guérisseuses qui seront présentes dans mon documentaire, deux guérisseuses valaisannes, elles pensent qu'on peut même fabriquer ses propres secrets. Que c'est juste un moyen, ces secrets, ces formules, de diriger l'énergie. Et elles font même des ateliers dans lesquels il est possible d'apprendre à créer ces secrets.
Est-ce que c'est du domaine de la foi, les latévo, en fait, on va dire l'énergie que déploient ces gens-là? Et comme je vous entends parler, c'est le mot qui me vient, en fait.
Oui, c'est du domaine de la foi. Après, pas forcément... les guérisseurs ne sont pas tous catholiques ou protestants. Ça peut être... certains sont athées, mais tous... pense qu'une énergie nous entoure. Certains appellent ça l'énergie universelle, d'autres le monde spirituel. Qu'est-ce que j'ai entendu encore ? La source, Dieu pour certains. Le monde du rêve, j'ai entendu une fois. Ça, c'est assez joli, je trouve.
Et vous avez rencontré aussi beaucoup de personnes très croyantes,
oui,
dans le sens religieux du terme.
Oui, bien sûr. Par exemple, Claudine Roll, une guérisseuse...
Claudine Rollanon, qui est venue d'ailleurs à cette antenne
voilà,
il y a quelques temps. Maintenant.
Avec son livre Le Cadeau. Elle est très croyante. Et elle vient de sortir un livre, Le Cadeau, où elle parle de sa croyance et vraiment Dieu. Mais voilà, j'ai aussi rencontré d'autres guérisseurs beaucoup moins croyants qu'elle. Donc j'ai vraiment vu de tout, je pense.
Une pluralité, comme ça.
Une pluralité, exactement, on peut dire ça.
Leïla Thévo, il y avait aussi cette question qui vient de m'échapper. Mais je vois le regard d'Hélène Cassignol qui pétille, qui s'interroge, n'est-ce pas ? Hélène Cassignol, ce monde des guérisseurs et des guérisseuses, c'est quelque chose de familier pour vous ou pas ? Dans le canton de Fribourg, je crois qu'on pratique aussi. Hein ?
Alors, dans le canton de Fribourg, on pratique énormément. Et puis c'est marrant parce qu'effectivement, dans certains récits, et en particulier dans un là que je termine justement, il y a un guérisseur à un moment donné apparaît. Et c'est vrai que qu'on est toujours très très impressionné en fait par ces forces obscures, mais qui sont pas forcément, comme vous le dites, des forces négatives, loin de là. Mais c'est vrai que ce mystère qui nous dépasse finalement fait aussi notre désir de nous interroger. Du coup, je comprends totalement votre fascination. Mais chez moi, dans le Midi, c'était aussi très très, très présent. Par exemple, moi, mes enfants, on est toujours allé chez une dame qui faisait des colliers particuliers pour qu'ils aient pas mal aux dents. Donc, il y a des pratiques où quand on était petit, quand on se faisait brûler, on allait se faire arrêter le feu. Mais souvent, c'est vrai que c'était des transmissions comme ça dans les familles. Mais je pense aussi que c'est justement c'est un moyen de relier aussi les gens. C'est secret.
On va se relier par la musique. Hélène Cassignol et Laila Tevo, c'est Lerita Mitsuko qui arrive avec la sorcière et l'inquisiteur. On est forcément dans le thème.
C'est parfait.
Femme, par ma voix, chante la beauté, tu es endiablée.
Lerita Mitsuko sur La Première, La Sorcière et l'Inquisiteur, un choix de Jean-Baptiste Roumain sur La Première. Il est 14h34 aujourd'hui dans l'émission. Hélène Cassignol, qui est donc la coprésidente d'ATD Carmonde Suisse et puis aussi recueilleuse de récits de vie. Une formation que vous avez entamée en 2014, je crois. Non, vous l'avez terminée en 2014.
Voilà.
À l'Université de Fribourg.
À l'Université de Fribourg.
Et depuis, vous donnez une énergie monumentale à faire exister ces récits de vie. Vous allez aussi dans les homes. Vous faites toutes sortes d'activités, des ateliers d'écriture itinérants, c'est vraiment quelque chose qui vous motive et qui vous nourrit, Hélène Cassignol.
Oui, alors oui, et c'est quelque chose qui effectivement qui me nourrit. Et puis les maisons de retraite, pourquoi ? Parce qu'au départ c'était vraiment ça qui était mon dada. On parlait du silence tout à l'heure. Moi j'ai toujours été très très touchée justement par le silence des personnes âgées, par leur solitude. Et le récit de vie, en fait, je l'ai démarré avec ma propre grand-mère, en fait. Et c'est là que j'ai eu ma révélation et qui après m'a amené à faire ces études. Et du coup, aujourd'hui, ce que je propose, en fait, dans les maisons de retraite, c'est ce qu'on appelle des cafés souvenirs. Moi, je trouve toujours ça toujours complètement extraordinaire, parce qu'en fait on est tout en groupe à se retrouver. Au départ c'est moi qui propose les thèmes, mais petit à petit, quand la confiance s'installe, c'est les participants qui s'emparent de ces thèmes là et ça donne lieu à des moments de joie totalement incroyables. Et en particulier, alors avant le confinement, parce que c'est vrai que j'ai été justement le confinement, bien évidemment, arrêté tout ça.
Ça vous a un petit peu freiné dans votre élan.
Et du coup, c'était un vide. Mais un des derniers thèmes donc proposés par les participants, donc puisque je suis à Fribourg, était puisque j'ai en particulier une Lily qui était vendeuse dans un ancien magasin de Fribourg qui s'appelle les trois tours, et elle a dit, ben voilà, on va parler des commerces de la ville de Fribourg. Et alors là, mon petit groupe s'est totalement animé, et pendant 4 ou 5 fois, on a dévalé les rues allant de commerce en commerce, et c'est totalement dingue, parce que c'est là qu'on se rend compte que toutes ces personnes ont un tel savoir et ont une telle énergie que c'est tellement dommage justement de pas écouter leur voix, parce qu'elles ont à nous apprendre, on a à échanger, et puis cette dynamique, cette énergie, c'est ça moi qui me bluffe, mais dans le récit en général, voilà.
Je viens de comprendre quelque chose à votre propos, Hélène Cassignol. Vous allez chercher quelque chose de l'ordre de la pépite. D'ailleurs, c'est un mot que vous avez utilisé en début d'émission, chez les aînés, dans leur parcours, pour refaire et revivre comme ça, voilà, quelque chose de l'ordre, de la joie, en fait, oui. Du souvenir qui tout à coup donne de la motivation, déploie ça. Et dans votre activité à TD Carmonde, qui est donc un mouvement, en fait, que vous avez rejoint il y a 16 ans, où vous investissez beaucoup de votre temps à rejoindre des personnes qui sont dans une forme de précarité ou dans la précarité
dans la précarité. Oui, si vous voulez, le but en fait du mouvement ATD Carmonde, c'est vraiment de réfléchir le monde tous ensemble et ainsi de combattre la précarité et de donner vraiment la parole aux plus pauvres pour qu'ils soient acteurs des mesures, justement, des mesures qu'on réfléchit pour eux.
Sans penser, en fait, qu'on sait déjà mieux qu'eux.
Exactement. C'est être avec, être ensemble, réfléchir ensemble. Et du coup, pour moi, ça a été un mouvement qui m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés sans ça. Et qui m'a fait prendre conscience.
Et vous m'avez dit en préparation de cette émission que vous avez rencontré au contact de ces gens-là les formes d'intelligence les plus vives que vous ayez jamais rencontré. Et en fait, ça me fait penser aux pépites chez les personnes âgées, en fait. C'est ce côté, en fait, où vous allez toujours chercher le meilleur chez l'autre.
Et c'est exactement ça. Parce qu'en fait, là, on découvre aussi, justement, ce que des personnes qui n'ont pas forcément pu aller à l'école, ou si elles y sont allées, ça a toujours été des moments souvent très difficiles, parce que leurs parents eux-mêmes avaient eu des difficultés, donc, et puis la vie étant dure, apprendre quand la vie est dure, c'est toujours très compliqué. Et malgré ça, malgré ces difficultés, malgré ces douleurs, malgré ce manque de reconnaissance, c'est des gens
qui se débrouille pour rester debout. Et la force est là, parce que nous, finalement, on s'en rend pas compte. Nous, on est debout, mais parce que nous, on a eu de l'amour, nous, on a eu de, finalement, on a grandi dans des milieux, enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, relativement favorisés. Donc, du coup, cet effort à être debout, quelque part, on le mesure pas. Et quand on est avec ces personnes-là, il apparaît tout d'un coup dans son éclatante vérité, et ça nous donne aussi beaucoup de force. C'est-à-dire que ce passé de justement des plus pauvres, comme de ce passé de toutes les composantes de la société aujourd'hui, les plus âgés, ou aujourd'hui, voilà, on parle évidemment, hier c'était la grève des femmes, il y a deux jours il y a eu les manifestations, je veux dire Black Lives Matter, enfin ce passé des composantes de la société est une erreur monumentale, parce que c'est vraiment ensemble qu'on arrivera à créer un monde, alors ça peut paraître naïf comme ça, un monde plus beau, mais surtout plus intelligent.
Plus intelligent, et je rebondis sur votre plus intelligent pour revenir au propos du film de Leïla Thévo, parce que je crois que les guérisseuses et guérisseurs que vous avez interviewés, Leïla Thévo, en fait finalement, ils veulent absolument pas se passer de la médecine classique, allopathique, etc. C'est toujours un partenariat. Exactement. Et en fait, ce que j'ai compris en discutant aussi avec vous en préparation de cette émission, puis en creusant aussi au fur et à mesure des rencontres dans Premier Rendez-vous, c'est que l'acte de guérison, l'acte, on va dire, de remise en forme, passe aussi par une forme de croyance en son pouvoir à soi. Et j'ai l'impression que ces guérisseurs et guérisseuses que vous avez rencontrés, c'est des allumeurs de foi chez les gens.
Exactement. En fait, déjà pour revenir à la première partie de votre question, c'est une complémentarité. Ils ne veulent pas du tout remplacer la médecine classique, surtout pas. Et d'ailleurs, si vous tombez sur un guérisseur qui vous dit d'arrêter un traitement médical, mais il faut fuir, parce que c'est justement tomber sur un charlatan ou un mauvais guérisseur, ce qui peut arriver. Mais moi, j'en ai rencontré aucun. J'ai eu affaire vraiment tout à des belles personnes et qui ont envie justement de donner les clés aux gens qui rencontrent, aux patients qui rencontrent, pour qu'ils puissent eux-mêmes puiser la force en eux pour se guérir. C'est ça le but, en fait. Ils veulent pas créer une dépendance avec ce patient, mais au contraire lui donner la force de trouver les ressources en lui.
Leïla Thévo, alors un film comme ça, qu'on organise sur un thème toujours un peu, on va dire, voilà, ça peut vite chavirer, disons. Vous avez rencontré des difficultés pour le financement de votre film. Je crois que c'est un financement participatif à la base.
Alors, oui, ça vient de plusieurs sources. Pour l'instant, je suis encore en train de chercher du financement d'ailleurs, mais j'ai commencé avec un financement participatif et aussi la fondation Engelbertz qui me soutient.
Qui finance les premiers projets.
Voilà, exactement. Une fondation qui finance des premiers projets et qui m'a laissé ma chance. Maintenant, j'ai aussi l'aide du canton de Berne et j'espère en trouver encore, parce que c'est vrai que c'est la pire période pour avoir cette envie de faire un film. Au niveau économique en ce moment, ça marche pas super fort, mais je pense que quand on y croit, justement...
Vous avez décidé de vous lancer aussi, quoi qu'il arrive, d'une certaine manière. Vous êtes entouré aussi d'amis, je crois, pour faire ce film. Notamment un ami dessinateur.
Oui.
Pourquoi cette idée d'amener du dessin dans un film?
Parce que j'ai envie de mettre de l'originalité dans la forme. J'ai pas envie de faire un documentaire formaté télé. J'ai envie de pouvoir apporter de l'originalité, apporter de moi aussi. Et... les dessins, je pense que c'est parfait. C'est des dessins humoristiques qui permettront justement de montrer tous les clichés qui entourent cet univers-là. Et j'aimerais ensuite ces dessins qui seront réalisés par mon ami Samuel Hambleton, les montrer aux différents guérisseurs et les faire réagir sur ces dessins.
Comme avoir un retour sur, en fait, cet humour, pour voir si ça les fait rire ou si ça les fâche.
Si, au contraire, ça les choque, ça les fait rire, ça les énerve. Voilà, mais ce sera une réaction spontanée, dans tous les cas.
Leïla Thévo, et en fait, vous avez aussi décidé d'être originale jusqu'au bout, si votre film ne convenait pas, disons, aux critères pour le cinéma classique en salle, vous avez dit, non, moi je fais du cinéma itinérant.
Ça, c'est une idée lancée comme ça, je ne sais pas du tout si je la réaliserai, mais... je me suis dit que quoi qu'il en soit, je trouverais de toute façon un moyen de le montrer, ce film, de le diffuser.
Donc, et comment est-ce que vous sentez cette urgence autour de vous à propos de la santé et au besoin justement des fois de se réapproprier la foi qu'on peut guérir par soi aussi? Comment vous la sentez cette interrogation, ce besoin-là des gens?
Alors j'ai rencontré des guérisseurs, mais pour ce film j'ai aussi rencontré des patients ou des consultants. Peut-être patients, c'est pas le bon mot, c'est plutôt réservé à la médecine classique. Et c'est un besoin d'être considéré dans sa globalité. d'être considérée pas seulement comme un corps physique. Souvent, ce qui ressort des interviews que j'ai menées, c'est que la médecine classique, elle a pas de cœur, elle a pas d'oreille. Et en allant voir des guérisseurs, ces consultants rencontrés ont l'impression d'être considérés comme un corps, mais aussi comme un esprit, avec des émotions, une âme. Donc c'est ça qu'ils ont besoin.
C'est ça l'idée de la globalité, c'est de se dire que finalement il y a le corps physique, on peut changer une hanche, un cœur, etc.
Voilà, et ça c'est la médecine justement classique qui le fait, mais pour le reste, il faut aussi que quelqu'un soigne les autres douleurs.
Est-ce que vous, on vous a soigné, Leïla Thévo? C'est une question trop privée.
Non, c'est pas une question trop privée. Alors j'ai aussi, depuis que je m'intéresse à ce monde-là, eu envie de tester.
Et qu'est-ce que ça donne chez vous alors?
Alors, je l'ai fait il n'y a pas longtemps pour une brûlure, où j'ai contacté Paulette, qui vient de ma région et qui participera aussi au film. Et ça a donné... au début, je me suis dit que ça ne fonctionnait pas sur moi, parce que je l'ai appelée par téléphone, elle a fait la formule, et ça m'a brûlée encore plus qu'avant. J'ai raccroché le téléphone, elle m'a dit « ça va cesser dans quelques secondes ». Et au contraire, ça a augmenté, mais après, plus rien. Donc en fait, c'était le processus normal. Elle m'a expliqué après coup qu'on ressentait une très forte chaleur à l'endroit de la brûlure et qu'après, tout se calmait. C'était normal, en fait.
Donc, merci, Leïla Thévo, pour votre petite expérience. À vous, Hélène Cassignol, envie de raconter une petite aventure dans ce domaine-là. Vous parliez de votre enfance. D'ailleurs, une enfance dans le Midi. Une enfance avec une grand-mère bergère.
Oui.
N'est-ce pas?
Oui, exactement.
C'était sur votre site internet.
Ah, c'était sur mon site internet, ouais, parce que j'étais étonnée. Bah oui, justement, oui, ma grand-mère bergère qui connaissait aussi quelques
guérisseurs.
Ouais. Alors non, elle-même non. Alors c'était une grande tireuse de cartes, ma grand-mère bergère.
Ouais,
voilà, une grande cartomancienne. Et d'ailleurs, grâce à elle, à 15-16 ans, j'avais eu mon petit succès au lycée, en tirant moi aussi les cartes. Après, ça s'est arrêté là.
C'est une histoire pour raconter finalement des histoires, justement. Hein, tirer les cartes, raconter des histoires.
C'est exactement ça. C'est à la fois raconter des histoires et puis c'est à la fois du coup faire parler les gens, et puis c'est un moyen pour entrer dans la vie des autres, un moyen assez doux comme ça, assez parallèle, mais qui fait qu'on est connecté de manière différente. Et puis ça c'est aussi tout l'art, et j'imagine que Leïla c'est exactement pareil quand elle s'adresse à ses guérisseuses et à ses guérisseurs, c'est comment leur faire dire des choses qui n'ont peut-être pas exprimé de cette manière-là, des choses peut-être auxquelles ils n'ont pas pensé avant et qui peuvent avoir un intérêt pour ce film et pour les spectateurs. Et c'est vrai que je voyais que vous vous interrogiez sur la forme. Il y a toujours aussi ces idées de forme qui sont passionnantes, parce que il y a aussi quand même dans le recueil de récits, comme il y a toujours cette part de créativité, cette part de créativité qui fait aussi partie, je pense, de cette énergie première dont se servent les guérisseurs. Enfin, j'imagine, en
oui,
tout cas.
Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire du documentaire de création, de pouvoir mettre de moi, déjà raconter mon histoire, raconter pourquoi je m'intéresse, moi, à cet univers-là, et pouvoir mettre de l'originalité, parce que c'est un monde original, comme vous le dites, les guérisseurs, ils sont originaux, c'est des personnages. Il y a beaucoup de gens originaux dans ce milieu-là.
Alors, des invités, des personnages, des histoires, mais aussi des objets, car nous sommes dans Premier Rendez-vous. Il est temps de sortir vos objets, chers invités. Alors, on commence avec qui? Hélène Cassignol ou Leïla Thévo? Allez, Hélène Cassignol. Non, allez, Leïla Thévo.
Je l'ai sorti.
En première.
Le dé.
C'est un dé à coudre. Ouais. C'est pas du tout parce que je suis une bonne couturière, je sais pas coudre d'ailleurs, mais c'est parce qu'il me rappelle ma grand-maman.
Ouais.
D'ailleurs, j'aurais bien voulu avoir quelqu'un qui aurait pu faire un récit de sa vie pour en savoir plus sur elle, parce qu'au final, je connais pas très bien sa vie, mais j'étais très très proche de ma grand-maman. C'est pour ça que j'ai amené cet objet, c'est mon porte-bonheur, elle était couturière, voilà.
Leïla Thévo, allez, maintenant qu'on est dans le domaine de la famille, de l'enfance, petit dé à coudre pour vous raconter. Vous avez trois sœurs, vous dites que votre famille est une tribu. Alors vous nous racontez un peu à quoi ça ressemblait cette enfance sur le plateau de Diès.
Alors une tribu parce qu'on est très soudés, on l'est toujours maintenant, on habite à trois pas les unes des autres.
Ah oui.
Donc on se voit toujours. D'ailleurs, ce soir, on va manger tous ensemble aussi avec mon papa. Et c'était une enfance une enfance magique, en fait. On nous a beaucoup laissé, mes parents m'ont beaucoup laissé jouer, m'exprimer, m'ont beaucoup raconté des histoires. D'ailleurs, ça vient aussi, je pense, un petit peu de mon papa qui, enfant, nous faisait croire qu'au fond du jardin se trouvaient des petites fées à qui on écrivait des messages, d'ailleurs, et qui nous répondaient. Donc, ça vient aussi de là, de tout ce que mes parents m'ont laissé faire, et ils ont développé ma créativité.
Une enfance donc plutôt chaleureuse avec toutes sortes de sœurs pour faire toutes sortes d'aventures.
Voilà, toutes sortes de bêtises aussi.
À cheval, c'est ça, hein, aussi.
Aussi, oui. Je partage ma passion du cheval avec une de mes sœurs justement aussi.
Mon cheval s'appelle Idylle.
Oui, Idylle. C'est pas moi qui ai choisi son nom. Donc, mais je l'ai depuis tout petit. Et c'est vrai que c'est une passion magnifique. Je sais pas quoi en dire de plus, mais c'est ma liberté, mon cheval.
Votre liberté de galoper librement comme ça. Bon, nous, on va galoper librement encore en musique un petit moment avant de rejoindre Hélène Cassignol et son objet à elle. Pour le moment, on part avec trois petits oiseaux. C'est Seven sur la première, Three Little Birds. Chanteur suisse Seven sur la première avec cette reprise de Bob Marley, Trois petits oiseaux. Et nous, deux superbes invités, Hélène Cassignol, recueilleuse de récits de vie, et Leïla Thévaud, qui est donc en train de devenir réalisatrice avec son premier projet, un film sur les guérisseurs et guérisseuses, qui s'appelle Dis-moi ton secret. Retour aux objets, Hélène Cassignol, le vôtre, Quel est-il ?
Alors en fait, moi j'ai un peu triché, j'en ai pris deux. J'ai pensé à un objet, alors qui n'est pas le vrai objet, qui est en fait un tableau de Nikki de Saint-Phalle, qui s'appelle Black is Different. Et ce tableau, en fait, ça a été le cadeau de mes 40 ans. Enfin, c'est un tableau, c'est une sérigraphie. Et du coup, je m'habille et je me déshabille tous les soirs devant la joie de Nikki de Saint-Phalle et devant son message d'ouverture et de beauté. Donc ça, c'est ma première joie. Et ma joie la plus récente, c'est le premier homme d'Albert Camus que je viens de relire ce week-end et qui m'a tiré les larmes aux yeux, parce que chez moi, la joie, ça s'exprime souvent avec des larmes, justement. Et me retrouver devant la puissance du texte de Camus, je le souhaite à tout le monde.
Hélène Cassignol, si vous nous amenez un Camus comme ça, c'est parce que vous devez relire souvent des œuvres que vous avez aimées pour vous replonger dedans, pour retrouver une forme d'énergie ou une envie pour vous aussi, pour récolter les dires des autres, ou comment ça se passe? Pourquoi vous avez besoin d'aller comme ça? C'est un peu un rituel de relire des livres à tel ou tel moment?
Alors, je dirais pas que c'est un rituel. Chez moi, c'est un besoin de lire des auteurs que j'aime ou que je découvre. Et en particulier, effectivement, bon, là, il s'agit des souvenirs d'enfance, hein, même si c'est d'une manière romancée de Camus. Mais c'est vrai que c'est important d'aller chercher à nouveau l'énergie des mots. Dans une autre source, c'est-à-dire que cette énergie des mots, je la trouve hein, chez les personnes qui se racontent, mais pour moi c'est aussi important de la retrouver dans les textes et de faire parfois aussi des liens justement entre ces différentes énergies, puisque je le disais là hors champ, effectivement quand je travaille sur un texte, j'ai toujours un journal de bord que j'alimente avec ce qui me traverse dans ma vie de tous les jours, et parfois justement c'est des textes, ça peut être aussi des textes de chansons, ça peut être et toute cette tous ces mots qui nous viennent finalement de différentes sources m'inspirent pour les questions que je vais poser, pour les échanges que je vais avoir avec les personnes qui se racontent.
C'est comme si la personne se débordait et vous profitiez justement de ces petites coups de pouce du destin, une musique,
exactement.
Un texte. Et ça venait nourrir en fait l'échange que vous avez avec une personne qui se livre à vous.
Tout à fait, c'est ça. Parce que finalement, cet échange, il vient des deux côtés. Moi, je ne dois pas être là que simplement pour recevoir. Ben, comme vous, Leïla, j'imagine. Parce que vous, on sent bien que ce sujet, vous le portez en vous depuis l'enfance. Donc, il vous dit à vous. Et donc, c'est aussi important, moi, de quelque part, d'arriver avec ce que je suis, ce que je suis depuis l'enfance, mais ce que je suis aussi à l'instant T. Et c'est comme ça que les gens vont se raconter au mieux, puisqu'on est vraiment dans de l'échange, dans de l'égal à égal, dans du don contre don.
Mais qui est-ce qui signe alors?
Alors, qu'est-ce qui signe?
Le récit de vie. Alors, c'est la personne ou c'est vous?
Non, c'est moi qui signe. C'est moi qui signe.
Okay.
C'est moi qui signe, mais c'est toujours propos recueillis avec. Et puis, c'est ce qu'on appelle de la co-écriture. Alors, effectivement, c'est moi qui fais la mise en forme, mais sans l'autre, je ne suis rien.
Est-ce que vous avez des fois, pardon, vous aviez une question?
Non, je dans le cadre de mon film, c'est la même chose en fait. C'est en donnant de soi que les autres s'ouvrent à nous dans les rencontres que j'ai vécues avec les différents guérisseurs. Ouais. Donc j'acquiesçais simplement parce que je suis d'accord avec vous. C'est exactement ça.
Oui, une part d'ouverture pour laisser finalement la rencontre se passer.
Exactement.
Et c'est comme ça que ça se donne. Finalement, Hélène Cassignol, une fois que le récit il est fait, comment ça se passe? À qui ça va? C'est la famille qui s'intéresse à ça? Les éditions, comment ça se donne? Vous le faites imprimer quelque part de précis?
Alors en fait, c'est très différent. Enfin, ça peut être complètement divers. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est vraiment pour les familles. Parfois c'est tiré à 1, 2, 3 exemplaires, parfois un peu plus, ça peut aller jusqu'aux amis, et de temps en temps effectivement les livres sont publiés quand il y a un intérêt plus large, comme en particulier l'ouvrage que j'ai écrit avec Christiane Savio que vous aviez reçu ici,
l'année passée,
voilà, qui s'appelle Instant Nu, et là qui est un texte effectivement qui peut rayonner, qui rayonne d'ailleurs plus largement. Mais quelle que soit la diffusion, qu'elle soit très confidentielle ou plus large, l'énergie à mettre est la même, hein, parce que je veux dire, cette cette voix du recueil, cette voix, c'est une voix vivante en fait. Mmh. Hein, c'est clair, c'est des mots qui sont écrits, mais on doit entendre la personne et on doit, voilà, ça doit vivre et ça doit pouvoir se transmettre.
Hélène Cassignol, si certaines personnes aimeraient vous connaître, vous rejoindre, peut-être aussi se laisser, comment dire, absorber par vous pour que ce soit restitué une fois dans un livre, comment faire, comment les gens peuvent vous joindre?
Alors, les gens peuvent me joindre via mon site. Hein, j'ai un site donc internet.
Hélène Cassignol,
voilà, .ch, tout simple. Et
des ateliers aussi, les écriqueurs.
Voilà.
Ça redémarre fin septembre.
Voilà, les écriqueurs qui redémarrent fin septembre, donc qui ont lieu à Fribourg, à la librairie du bien-être. Et j'ai aussi des ateliers, là, je parlais de Nikit Saint-Phal, des ateliers en collaboration avec l'espace Tingly Nikit Saint-Phal autour de l'œuvre de Nikit Saint-Phal et dont le titre est Nikit Saint-Phal et moi, pour plonger justement dans l'univers extraordinaire de cet artiste
coloré, joyeux et pétaradant, tout comme vous, Hélène Cassignol. On y retombe, on retombe sur nos pattes.
Merci
beaucoup d'être venu à la rencontre de Leïla Thévaux.
Merci beaucoup pour cette belle rencontre. Merci.
Leïla, de votre côté, un site ou les réseaux sociaux pour vous joindre?
Alors, j'ai une page Facebook, Dis-moi ton secret.
Et voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Leïla Thévaux. Belle suite à vous et merci aussi d'être venu ici. Premier rendez-vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Yves Roulin qui assurait en régie cet après-midi, notre attaché de production. C'est Marilyn Regard. Merci aussi à l'équipe de la documentation. Dans quelques instants, vous aurez le plaisir de retrouver Lucas Torrent pour À l'abordage. Il va être 15h sur la première. Très douce fin de journée à vous et à demain. Au revoir.